France Inter.
Club.
Bonsoir et go et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Marion Guilbeault.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Bienvenue dans Côté Club pour une heure de musique avec la scène française, la meilleure. Chaque soir, c'est votre rendez-vous au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Ce soir, un plan Thalasso avec Vincent Delerme, Stéphane Brisé et Mesparo. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane Brisé et Vincent Delerme réunis sur Hors Saison. Le film est sorti aujourd'hui. Les retrouvailles d'un homme et d'une femme. Lui, star de cinéma, vient de fuir les répétitions d'une pièce de théâtre. Il fait une pause dans une station balnéaire. Drôle d'endroit pour une rencontre parce que, hasard, il y retrouve la femme qu'il a salement quittée 15 ans plus tôt. Elle est aujourd'hui femme de médecin, prof de piano. Doute et mélancolie pour le premier, c'est Guillaume Canet. Désarroi et renoncement pour la deuxième, c'est Alba Rohrwacker. Le tout jouer sur trois petites notes de musique? Non, sur une partition sur mesure signée Vincent Delerme. À vos côtés, c'est Mesparo. Elle signe son quatrième album, L'essence vagabonde. 11 titres qui jouent la pureté de la voix mise en boucle pour atteindre l'âme nue d'un cœur féminin. Il faut dire que vous êtes pluriel. Et pour vous, Marion?
Semaine de la francophonie, journée spéciale sur France Inter. Alors, écoute-t-on encore de la musique française à l'étranger? Quels sont les artistes qui marchent le mieux et où? État des lieux avec Jean-Philippe Thiellet, c'est le président du CNM, Centre National de la Musique, vers 22h30.
Voilà, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre en live avec Yamé. Est-ce que vous connaissez Yamé les uns les unes les autres? Non, Mesparo, non.
Pas encore.
Stéphane Brisé, non.
C'est la fille de Charlie Lee, hein? Non.
Comment?
Non, c'est pas Yamé Couture.
Non, c'est pas Yamé Couture, pardon. C'est quelqu'un d'autre. Révélation masculine ou dernière victoire de la musique, j'ai vu que personne n'avait suivi.
Ouais, personne n'a regardé, dis donc. Ouais,
personne n'a regardé. Il était notre invité côté club il y a quelques semaines, personne n'a écouté. Son live, son live en bécane sur France Inter.
Ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien. Moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les ondes, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sans les mains. Tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En indé, sans cara, sans chicot, oui, je fais qu'écro bien plus que les grands de t'écran. J'étais ma paille, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je bantou, me parle pas de basaner. On n'est pas venu ici pour se pavaner. Remballe ta CG, mais cesser. Je tourne la poignée, je froisse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Et je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. Chant la bécane, di 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 da. Je fume la peau. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas au enfer. La bécane grille et je sors de l'enfer. Sur un gros fer. Bah ouais, chant la bécane, di 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 di. Je fume la peau. Les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas au enfer. Avec un cri, je sors de l'enfer. Sur un gros fer. Bah ouais, bah ouais. La craide a focalisé. La haine que je ressens dans mes pensées. Dans ce business balisé. Oh ouais. Chant la bécane. Sur un gros fer, bah ouais, bah ouais.
Vincent Delerme, Stéphane Brisé et Mesparo Baouès sont nos invités côté club ce soir. Vincent Delerme et Stéphane Brisé, c'est aujourd'hui donc la sortie de Hors Saison, votre 10e film. Un homme, une femme, la plage, Hors Saison. Est-ce que vous êtes allé chercher Vincent Delerme pour ça ?
Elle repense à ce film qui se passe à Deauville. C'est un peu décevant, Deauville, sans Trintignant.
Non, c'est juste une blague. Mais quand même, je voulais qu'on passe cette chanson, donc Deauville sans Trintignant, parce que je sais que vous aviez pensé mettre une séquence d'un homme et une femme dans votre film. C'est ça, hein,
ouais, c'est vrai. J'avais pensé à un moment filmer Guillaume Canet appuyé contre le garde-fou de sa chambre d'hôtel. Et je voulais qu'il voit tout au loin une Ford Mustang arriver près de la plage, faire des appels de phare. Je voulais faire ce petit clin d'œil, parce que finalement, mon film, c'est un homme et une femme à côté de la plage.
C'est exactement ce que j'ai dit. Vincent ouais. Delerme, ce n'est pas votre première bande originale. Moi, je me souviens notamment de 16 printemps, le premier film de Suzanne Lindon en 2021. Qu'est-ce que Stéphane Brisé vous a raconté de son projet, en fait, quand il est venu vous voir ?
Bah, c'était un mélange de choses, parce que évidemment que on a pris un café, dans ces moments-là on parle du film lui-même, mais on essaie aussi de comprendre lui comme moi comment fonctionne la personne qu'on a en face de soi. Moi, j'essaie aussi de savoir ce qu'il avait pu aimer dans d'autres trucs que j'avais fait.
Alors qu'est-ce qu'il avait aimé?
Notamment je crois qu'il y avait la BO de Suzanne justement aussi.
Ouais, c'est par rapport à la, je savais pas qu'en fait que Vincent avait fait des musiques de films, mais c'était le moi je alors je vais toujours chercher le compositeur pendant que j'écris le film. Et là je cherchais et je vois le film de Suzanne Lindon à ce moment-là. Et là, il y a quelque chose qui a résonné, qui me semblait juste par rapport au film. Donc à ce moment-là, je me suis permis d'appeler Vincent en lui racontant. Il n'a pas lu de scénario, mais je lui ai raconté un peu l'histoire et c'est parti de ça.
Les premières images qui vous sont venues quand il vous a raconté cette histoire, un homme, bah, c'est une sûr femme, que c'est une plage. Sûr.
Effectivement, ce truc de hors saison, qui est très présent aussi dans la chanson de Francis Cabrel, et qui est quand même, c'est la première chose qu'il a pu me dire, c'était ça fait longtemps que je rêve de filmer une ville hors saison, les volets fermés et tout ça. Et
ça vous correspond aussi quand on regarde vos photos. Il y a quelque chose de ça aussi
et
chez vous.
1131, ouais. C'est vrai que c'est une chanson très dans ce trip là aussi. Ouais, c'est sûr. Et puis après, en fait, finalement, quand on rencontre les gens, ils vous font passer un truc comme ça, un peu intuitivement, enfin on rentre chez soi un peu chargé de la personne. Et je pense que le premier thème, j'ai dû le faire tout de suite en arrivant chez moi, parce que j'avais l'impression, enfin, d'avoir senti un peu peut-être ce qu'il pouvait aimer. Et puis c'est aussi une chance, moi on me demande rarement de faire ça, donc les fois où les gens viennent vers moi, c'est souvent qu'ils attendent des mélodies qui sont un peu comme des mélodies de chansons quand même, et qu'après on essaye de décliner autrement. Mais la base, c'est toujours des mélodies quand même assez identifiables, et finalement c'est pas si loin du travail qu'on fait quand on fait du piano pour la chanson.
Pourquoi vous avez cité Francis Cabrel ? J'ai pas compris.
Ah bah à cause de sa chanson Hors Saison.
Je connaissais même pas. Saison.
C'est vrai ?
Non, c'est vrai.
J'ai cru que c'était une blague, c'est quand même une chanson.
Bah non, je la connaissais pas, Marion, vous la connaissiez ?
Point du tout.
Ah bon ? C'est parfait. Vous la connaissiez, vous, Stéphane Brisé ?
Je connaissais, c'est quand même un des très très gros titres de Cabrel, mais moi, alors il y a plein de gens pour qui elle prend une place importante dans l'imaginaire, mais pour moi, c'est pas une chanson qui m'accompagne. C'est une très belle chanson, mais le titre Hors Saison est souvent associé à Cabrel.
À Cabrel. Ouais. Mesparo, vous connaissiez ?
Non, je connaissais pas.
Parfait.
Mais c'est pas possible.
3-2. Voilà, c'est la bonne invitée. Mesparo, c'est la bonne invitée. Alors, on va y revenir sur ce film. Mesparo, donc quatrième album en français, en anglais. Mesparo en anglais, ça veut dire moineau en français.
Sparrow, oui.
Ouais. À quel moment vous avez choisi ce nom dans votre parcours ?
Très tôt, donc c'est ce qui fait que je suis obligée de l'expliquer à chaque fois.
Bah oui.
Et donc avec ce « me », « moi », « sparrow », le moineau en anglais, c'est un peu...
Vous regrettez d'avoir choisi ça à l'époque ?
Je regrette pas, parce que ça sonne bien, mais c'est vrai que je dois beaucoup l'expliquer, et alors que ça n'a pas vraiment de sens, vu que ces deux mots, me et sparrow, enfin, c'est un peu. Au départ, c'était Miss Sparrow, c'était Mademoiselle Moineau.
Ah, c'était pas mal non plus.
Et c'était plus diffamé écrit, ça faisait 3 S à la suite, c'était pas terrible. Donc, voilà.
Je voulais parler de ça parce que j'ai pensé à vous, parce que dans ce film, Stéphane Brisé, il y a une séquence avec deux chanteurs d'oiseaux, Johnny Rass et Jean Boucou. Vous les connaissez ?
Non.
Les chanteurs d'oiseaux ?
Non.
Ben alors, on va écouter ce que ça donne. Pas dans le film, mais leur propre partition.
«
Donc, ce ne sont pas des oiseaux, ce sont des chanteurs d'oiseaux. Ouais. Dans le film, ils chantent quels oiseaux ? Alors, vous leur avez demandé quelque chose ou pas ?
Alors, ils improvisent pas dans le film. En fait, on a fabriqué la petite dramaturgie. Séquence, ouais. Après, le nom des oiseaux, je saurais pas. Ils en ont, je crois, 500 dans la bouche. Et c'est pas qu'ils chantent les oiseaux, c'est vraiment qu'ils sont oiseaux.
Ah, véritablement, même.
Parce que moi, je les ai déjà vus en vrai dans un endroit où il y avait des oiseaux en vrai. Il y a une interaction, c'est-à-dire que les oiseaux leur répondent. C'est assez troublant. C'est poétique et très très émouvant de les entendre.
Et la séquence les particulièrement quand ils sont, on va pas révéler quand. Il suffit d'aller au cinéma. Direction cette hors saison, c'est votre 10e film, Stéphane Brézé. La bande originale est signée Vincent Delerme. Où l'on n'entend pas cette chanson ni avec toi ni sans toi. On ne l'entend pas, mais on l'écoute sur France Inter.
Montre-moi comment te t'excuserai.
Ah, je m'excuse.
C'est ça? C'est ça, tes excuses?
Ah ouais?
Non, non, non. On va la refaire. Vraiment, une deuxième prise. Mais vraiment, essaye vraiment de faire plaisir à l'autre. Avec plus d'intention, plus sincère. Vas-y.
Alice, vraiment, je te prie de m'excuser. Vraiment.
Merci.
Tu sais comme je suis. Tu sais déjà. Tu connais ma vie. Et ma vie me va. Ne conti né senza di te. Ni avec toi, ni sans toi. La terrasse, les volets fermés. Voilà. Tu sais comme je suis. Tu sais la plage à 5 heures. Mes hivers ici et ma tête ailleurs. Ne conti né senza di te. Ni avec toi, ni sans toi. La falaise, la nuit, les rochers. Te voilà.
Tout ça existe juste dans mon téléphone. Dans ma tête aussi, oui. Sur des petits papiers, mais c'est vraiment caché en moi. Et basta.
Tu sais comme je suis. Moi qui ne sais pas s'il faut dans ma vie cette histoire-là.
Tu veux vraiment que ça se termine comme ça?
Ne conti né senza di te.
Peut-être, oui.
Ni avec toi, ni sans toi. Le silence, la chambre au premier.
Tu peux pas dire une chose pareille.
Me voilà.
Il y a des gens comme toi et il y a des gens comme moi.
Tu sais comme je suis.
Et moi, je suis comme ça.
Ni avec toi, ni sans toi, une chanson que l'on n'entend pas dans le film. Mais que s'est-il passé? Parce qu'elle a bien été composée pour le film, non, Vincent Delerme?
C'est snob un peu.
Ouais, c'est snob.
Non, bah en fait, c'était ce plaisir-là, une fois qu'on avait fini la BO et puis le film, se dire, on aurait pu faire une chanson. Et, puisque c'est un goût qu'on a, Stéphane et moi, je pense, pour les chansons de film, tout simplement. Et c'était pas si grave qu'elle soit pas dans le film. C'était aussi le plaisir, pour moi, d'aller rechercher dans les bandes des moments où il y avait les voix de Guillaume et Alba.
Et vous adorez ça?
Bah oui, c'est hyper agréable parce que c'est tout de suite très évocateur et il y a quelque chose qui marche tout seul, surtout avec l'accent d'Alba qui est incroyable.
Et puis ça fait référence, quand on entend la voix d'Alba, on pense bien sûr à la voix de Romy Schneider, et ça fait référence à la chanson d'Hélène,
ouais.
Qui n'est pas dans le film de Claude Sauté.
Ouais, d'ailleurs, qui lui avait été, ça avait été un peu une surprise qui avait été faite par Jean-Loup Dabadie, et en lui proposant qu'elle soit au générique de fin, il l'avait refusée très ostensiblement, alors que presque tout le monde pense qu'elle est au générique de fin du film, et en fait non, c'est une œuvre à part.
Encore une question sur cette chanson. Ni avec toi, ni sans toi, on dirait une phrase de La femme d'à côté de François Truffaut, non ?
Ouais, ouais, c'est une phrase qui est dans le film, et c'est surtout la manière qu'il avait tout le temps de résumer ce film, hein, quand on lui demandait de faire une sorte de... On n'utilisait pas le mot de pitch à l'époque, mais c'était ça l'idée. Il disait toujours « ni avec toi, ni sans toi ». C'est une phrase que j'ai toujours... et c'est vraiment clair que ça appartient à Truffaut. Et c'est vrai que le film est très sentimental, très comme ça, centré sur le couple. Et ça, c'était un peu, comment dire... Il y avait cette interdiction, à cause de la chanson que tout le monde connaît de Francis Cabrel, d'utiliser l'expression « hors saison ». Donc il fallait trouver une autre phrase un peu charnière comme ça.
C'est, un peu emblématique.
Voilà.
« Hors saison », ce sont donc les retrouvailles 15 ans plus tard d'un acteur, Guillaume Canet, qui doute. Il vient de quitter violemment les répétitions d'une pièce de théâtre parce que ça lui fait peur, il n'est pas sûr d'être à la hauteur. Il fait une pause quelques jours dans un centre de thalassothérapie de luxe, hasard dans cette ville. S'est installée il y a 12 ans, Alice. Elle est jouée par Alba Rohrwacker, qu'il avait quitté là encore violemment il y a 15 ans. Manifestement, il est abonné aux ruptures. Les deux ex-amants se retrouvent, évoquent ce passé douloureux pour elle, toujours. Et lui, que peut-il en dire ? Lui, célèbre acteur de cinéma, même s'il se répète dans ses deux derniers films, un mélancolique. Elle, prof de piano, alors qu'elle aurait peut-être pu être autre chose. A-t-elle raté sa vie ? Aurait-elle été à la hauteur de ses ambitions ? Que va leur apporter ces retrouvailles ? Bande annonce.
Salut !
Salut !
Ça va ?
Ouais, ça va.
Tu fais quoi, toi ?
Comment ça, qu'est-ce que je fais ?
Dans la vie ?
Je suis comédien.
Tu vas se mettre dur ?
Ça va.
Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît ? Une deuxième ?
Allô, Alice ?
J'étais pas sûre de te contacter.
Non, je suis très heureux.
Mais je parle toujours aussi mal le français.
Non, mais zéro progrès, c'est quand même fou.
Toi ?
Tout va pas bien, mais le tout va bien.
Qu'est-ce qui ne va pas dans le tout ?
Tu vois, ça, les golfs, là. Bon, ça passe après le réchauffement climatique, bien sûr.
Tu prends, tu jettes, tu pars.
Bande annonce pour ce film hors saison signé Stéphane Brézé, la BO c'est signé Vincent Delerme. Vous changez presque systématiquement de compositeur pour les films. J'ai regardé, il n'y a aucune...
Systématiquement, ouais. Il n'y a jamais eu deux
jamais
fois.
Jamais eu de complicité.
Alors, je suis très fidèle aux équipes.
Aux acteurs même qui reviennent.
Aux acteurs qui sont revenus plusieurs fois. Et non, les compositeurs à chaque fois ça change, ouais.
Vous savez que pour le prochain, vous êtes lourdé. Ouais, voilà, vous avez toujours compris. Il n'y aura pas de deuxième fois. Il n'y a pas de deuxième chance. À quel moment du film, le nom du compositeur vous apparaît ?
Il faut qu'il apparaisse très vite parce que pour moi, c'est vraiment une ligne d'écriture à part entière. Et je n'arrive pas à écrire le scénario si je n'ai pas la musique qui est en train de se composer en même temps. Il y a vraiment quelque chose qui est absolument nécessaire pour... c'est presque une co-scénarisation. La musique est là d'une manière absolument nécessaire. Elle convoque des images pour moi. Elle efface certains dialogues, même parce qu'il y a vraiment des choses qui se créent dans mon esprit en même temps que j'écris, en même temps que j'entends la musique. Moi, je recevais les morceaux de Vincent pendant que j'écrivais avec Marie Drucker, qui a co-scénarisé le film. C'est absolument, absolument intégralement essentiel pour moi.
C'est confortable pour vous ? Vincent Delerme, alors vous avez une petite expérience déjà dans la bande originale de film, vous n'êtes pas le gros professionnel de la musique de cinéma, mais est-ce que c'est confortable de travailler là ou de travailler à l'image par exemple si vous l'avez déjà fait ?
J'ai finalement assez peu travaillé à l'image déjà parce que c'est vrai que c'est... Pour moi, c'est plus agréable de donner des morceaux assez tôt qui vont être écoutés pendant le tournage et tout. Alors, en plus, quand on le fait pas, on récupère un film donc, qui est fini et sur lequel on a placé des morceaux provisoirement. En vous disant, on a mis ça en attendant, donc si tu peux faire un peu pareil, sauf que les trucs qui sont mis, c'est Life on Mars de David Bowie, La nuit américaine de Delru, et donc je dis, les gars, vous êtes sympas. Et Wagner. C'est toujours c'est le top 12 intégral, quoi. Donc c'est injouable et c'est assez sclérosant. Bon, on m'a toujours un peu dit ça, les gens que je connais qui font des musiques de films, souvent, s'arrachent les cheveux avec cette phase-là, de cette façon-là. Non, finalement, c'est assez simple aussi parce que, dans la chanson, en tout cas, ce que j'aime bien quand on fait une chanson, c'est que la musique, elle sert à mettre un peu un cran de lyrisme un peu plus fort dans les paroles, à rendre le truc un peu plus émouvant. Et finalement, une musique de film, ça fonctionne comme ça. En tout cas, moi, j'en ai consommé beaucoup comme ça quand j'étais jeune parce que je mettais ça chez moi, je mettais des musiques de films, des gens que justement comme Delerue, de Roubaix, et j'avais l'impression que d'un seul coup, tout devenait incroyable, beaucoup plus intense, que ça rendait la vie plus intense, et c'est finalement un peu le même schéma qu'il y a dans les chansons.
La preuve, Vers l'océan. Stéphane Brisé, vous vous souvenez quand est apparu ce titre ?
Ah oui, quand j'ai reçu ce titre, je savais que c'était la première image du film. Il y a quelque chose de... Pour moi, ça représente quelque chose de la psyché du personnage, il traîne un peu sa peine. Et en même temps, dans cette musique-là, il y a quelque chose d'un peu goguenard, il y a de l'humour dans ce morceau-là. Et c'était la note. Le film doit commencer avec cette note-là, donc on rit pas mal dans le film, notamment l'état dépressif du personnage joué par Guillaume quand il est dans sa thalasso de luxe. Et cette musique-là, dès que j'ai entendu, j'avais l'image, la première image du film, d'une voiture qui est toute petite sur la route, comme un petit insecte qu'on suit. C'était, je l'ai eu, j'ai cohabité avec cette image et cette musique pendant des mois et des mois, jusqu'au moment où je l'ai tournée.
Cette petite voiture que l'on voit d'en haut, est-ce que ça vous a fait penser au début de La Femme d'à côté ? Vous vous souvenez aussi de cette voiture qui traverse comme ça les paysages ?
Vous avez raison.
Ce film a un inconscient. Et cet inconscient, c'est La Femme d'à côté.
Ouais, mais et en fait, je n'y pensais pas. Vous avez raison. Mais quand j'avais toujours cette idée de cette voiture vue d'en haut, mais j'avais une crainte, c'est que ça fasse trop Netflix, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un film ou un film ou une documentaire de Netflix sans un plan au drone. Et donc, je l'ai testé pour voir si ça fonctionnait. Et ça fonctionnait. Donc, ça ne faisait pas Netflix. Donc, je l'ai tourné.
D'autant plus que ce genre de plan, vous le retrouvez par la suite avec des personnages qui sont filmés de très loin, comme perdus dans l'immensité des paysages, notamment de mer. Quels sont les instruments que vous avez mis pour ce premier morceau avec une certaine stridence ?
Ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, c'est du mélotron, qui est un instrument que j'aime beaucoup, mais dont je pensais éventuellement me détacher dans un deuxième temps. Mais Stéphane Brisé s'est accroché comme un maboule à ses sons. Et donc, plusieurs fois, je dis, peut-être on devrait quand même faire venir un vrai trompettiste. Et en fait, ça arrive aussi, c'est quelque chose que les musiciens connaissent, c'est l'attachement qu'on a aux maquettes de départ, parce qu'il y a toujours un petit charme du début. C'est comme la première fois que vous voyez quelqu'un qui vous plaît, après, vous... si elle remet le même pullover qu'elle avait la première fois que vous l'avez vu, vous êtes content, quoi. Il y a un truc comme ça, on peut pas s'en défaire. Et souvent, les chanteurs, par exemple, ont l'impression, au bout de 10 ans, qu'ils chantent beaucoup mieux la chanson qu'à l'époque où ils l'ont enregistrée. Ils sont souvent tentés de réenregistrer des choses, mais c'est très rare qu'on s'attache davantage à la deuxième version.
Il y a souvent des musiciennes dans vos films. En tout cas, là, ici, Alice est pianiste. Ou même, vous êtes musicien, Stéphane Brisé.
Rien du tout. Non, handicapé total. Je ne chante pas, je ne danse pas, je ne fais pas la musique. Par contre, je suis hyper attaché à la musique pour construire les films.
Vous avez quelle culture musicale ?
Comme ma culture du cinéma, c'est totalement empirique et ça va dans tous les sens.
C'est un rennais.
Donc j'ai 30.
Ça dit quelque chose.
Ouais, mais en fait, même pas, parce qu'à l'époque, il y avait Marquis de Sade à Rennes. Et j'ai, dans mes deux courts-métrages, j'ai fait la musique qui a été faite par un musicien de Marquis de Sade et Frédéric Renaud. Mais en fait, non, c'est totalement un bordel. Alors, par contre, quand je fais un film où il y a du tango, pendant 2 ans, je n'écoute que du tango. Quand il y a de la musique classique, je n'écoute que la musique classique. Donc en fait, je me remplis en fabriquant les films, beaucoup.
Donc là, vous avez bouffé du Vincent Delerme pendant à peu près 3 ans. C'est terminé, vous avez bien compris. Deuxième extrait, Hors saison. Mais ce n'est pas un titre de Francis Cabrel, Hors saison ?
Si, bien sûr.
Peut-être un mot sur ce titre problématique.
Problématique ?
Non, mais pour quelle raison ? Parce qu'on n'entend pas véritablement.
C'est qu'en fait, on a généré de différentes musiques pour Stéphane, et puis c'est normal, pour le film, il en garde certaines et pas d'autres. Et au moment où on a de publier la BO, je lui ai demandé si une petite autorisation, des fois, d'aller rechercher des choses qu'on avait mises de côté, ce qui a permis de constituer une BO qui est un peu plus longue, tout simplement. Aussi.
Plus longue que le film. D'ailleurs, vous saviez combien de temps vous disposiez pour la musique, pour le film ?
Non, mais assez vite, Stéphane m'a dit qu'il voulait qu'il y en ait pas mal dans le film. C'était une des seules indications précises et techniques. Et après, par contre, Stéphane était présent en studio souvent aussi, et c'est vrai qu'il... C'est drôle qu'il n'ait pas de formation ou d'éducation musicale parce qu'il est très, il a des directives très précises.
Mais Sparrow, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Parce que vous aussi, vous avez signé une musique de film, de documentaire, une seule.
Une musique de documentaire. Et puis, j'avais aussi fait quelques voix sur la musique d'un film, Grand Froid, de Gérard Poutonnier, où il avait utilisé une musique à moi qui était déjà existante. Et je vois les parallèles de fonctionnement. Il me disait qu'il avait cette chanson en tête depuis le début. Enfin, donc c'est intéressant de voir ça. Et j'ai aussi, on échangeait aussi sur d'autres musiques qu'il aurait voulu entendre. Et il me parlait aussi des fois de musique impossible à refaire aussi bien que l'artiste.
Stéphane Brisé, est-ce qu'on vous a déjà proposé de réaliser des clips? À part le clip qui s'appelle « La loi du marché », un titre de Cyril Mokayesh,
ouais,
chanté par Bernard Lavilliers aussi, mmh, en lien bien sûr avec votre film. À part celui-ci, vous en avez
non,
fait
non, j'en ai fait un en 93 ou 94 d'un chanteur qui s'appelle Peter Kröner. Donc c'était il y a longtemps, je ne sais pas ce qu'est devenu Peter Kröner. Et c'était, donc j'ai fait deux clips dans ma vie. Mais c'est un exercice que je trouve assez vraiment intéressant. C'est un format court comme ça que je trouve... très inspirant, il faut souvent faire avec pas grand-chose. Moi, j'aime bien faire avec pas grand-chose.
Vous savez que votre ami Claude Lelouch en a réalisé plus de 300.
Et les Scopitone à l'époque.
C'était les Scopitone à l'époque. On a ouvert avec la révélation masculine, Yam, mais on poursuit avec la révélation féminine de l'année qui a raflé pas moins de 4 victoires de la musique. Celle-là, vous la connaissez, Zao de Sagazan, oui. Voilà. Elle est en tournée. Comment? Vous n'êtes pas sûr?
Non, c'est la fille de Charlie Couture. Mais ça avait
quoi.
Été coupé la
c'est
première
pas
fois.
C'est pas une chanson de Francis Cabrel, Sagazan?
Zao de Sagazan est en tournée partout en France, les salles de plus en plus grandes. Ce soir, elle est à son zénith dans Côté Club. Aspiration.
Quelques aspirations et la spirale commence pour de l'inspiration. Madame caresse la démence, mais jamais ne s'arrête et jamais ne s'arrêtera cette fois dans la tête qui toujours la ramènera à sa jolie cigarette, à sa jolie cigarette. À sa dernière cigarette, de celles qui font tourner la tête. Quelques aspirations et la spirale recommence pour de l'inspiration. Je deviens bête, tout devient dense, mais jamais.
Bien, on est dans un truc feutré et tout, c'est pas mal.
Club.
Le son est bien là.
Mais oui, le son est bon.
Laurent Goumard.
Zao de Sagazan, Aspiration, victoire de la musique française, francophonie au programme Marion Guilbeault.
Oui Laurent, parce que c'est la semaine de la francophonie et c'est une journée spéciale sur France Inter, Côté Club. Se devait donc de faire le point sur le devenir de la musique française à l'étranger et qui mieux que le CNM, le Centre National de la Musique, qui conseille, qui aide et qui développe les projets artistiques hexagonaux dans leur rayonnement à l'étranger pour nous répondre. J'ai donc demandé à Jean-Philippe Thiellet, son président, quelle était la situation de la musique française à l'export aujourd'hui.
Elle est très bonne. On a dans notre pays des artistes dans différents genres musicaux, des équipes artistiques qui se vendent très bien à l'international, ça veut dire dans des tournées un peu partout dans le monde, et aussi évidemment en digital. Donc on est en train de consolider les chiffres 2023, mais les tendances, elles sont très bonnes. C'est vrai que c'est un marché en pleine croissance au niveau mondial et que pour garder notre place, il faut y travailler, mais la situation est bonne.
Est-ce que les artistes français s'exportent de mieux en mieux ?
Ils s'exportent de mieux en mieux. Le nombre, notamment d'artistes qui sont certifiés, c'est-à-dire dont les titres obtiennent des certifications, diamants, or, un peu comme des disques d'or ou des disques de platine, sont de plus en plus nombreux. Et en 2023, on sait que la progression, elle va être encore très forte. La difficulté, c'est que le marché mondial de la musique est en pleine expansion. Et donc, en part relative, on perd des parts de marché, alors même qu'on s'exporte de mieux en mieux. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin de soutenir ces artistes, de soutenir les entreprises pour que la France rayonne encore davantage et en tout cas ne perde pas de part de marché.
Alors, quelles seraient les tendances pour 2023 et 2024 ?
La tendance, c'est la montée en puissance du rap, et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est de la langue française, alors que traditionnellement c'était plutôt la musique électro qui s'exportait bien, elle continue à bien s'exporter, mais le rap et même aussi la chanson progresse. Et des artistes comme Gazo, Nino, Damso, Aya Nakamura, bien entendu, continuent à progresser. Et la petite nouveauté, c'est que alors que c'était traditionnellement vers l'Europe et aussi vers les États-Unis que les chiffres étaient les meilleurs, on voit que la Chine est en pleine progression et que la demande de musique française en Chine est en pleine hausse. Et sans doute, demain, le continent africain sera là aussi un axe majeur de développement. Il y a des questions d'accès à l'Internet, au débit ou la fibre, et aux abonnements payants, mais il n'y a pas doute que l'Afrique est un sujet de réflexion et de développement pour l'avenir.
Alors, est-ce que vous pourriez dire que le rap est en train de sauver la francophonie, Jean-Philippe Thiellet ?
Bah, la francophonie, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Il y a aussi des pays francophones qui, traditionnellement, sont très liés à nos artistes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut dire que la langue n'est pas une barrière et que le savoir-faire français manifesté dans le rap, et ça c'est pas nouveau, ça remonte aux années IAM, à la naissance du rap en France qui était reconnu dans le monde entier, mais que c'est vraiment un facteur de rayonnement et de développement, donc on peut complètement s'en féliciter. Et c'est aussi l'occasion pour moi de tirer un grand coup de chapeau à Aya Nakamura. C'était vraiment les derniers jours ont été marqués par des propos absolument inqualifiables, et c'est un facteur de rayonnement pour notre pays.
Chanter en français, donc ce n'est vraiment plus du tout un frein pour l'export.
Non, je ne crois pas. Et d'ailleurs, vous savez, il y a régulièrement dans l'année des salons, des rencontres professionnelles. Et j'étais à la fin de l'année dernière à Groningen, qui est un des plus grands salons et marchés professionnels des musiques dites actuelles. Et Zao Zagazan, qui explose en France, oui, et on va la voir partout, elle était dans une salle où il y avait très peu de francophones, et alors même que ses textes parlent, elle travaille les mots, le public était complètement captivé. Donc bien sûr que non, chanter en français n'est pas un frein à l'export. Je suis même convaincu que c'est un facteur différenciant très fort pour nos artistes.
Qu'est-ce qu'il faut à un artiste français pour marcher à l'international ?
Je dirais d'abord, il faut de la bonne musique, ça c'est absolument certain. Ensuite, c'est peut-être une banalité, mais le secteur est très concurrentiel. Ensuite, il faut une stratégie, c'est-à-dire que le monde est grand et on peut très bien se développer en Amérique latine ou en Europe ou maintenant en Asie. Et donc, il faut prendre du conseil. Et au Centre National de la Musique, spécifiquement sur le développement international, c'est des milliers de rendez-vous chaque année, gratuits, c'est le service public, où on analyse les marchés et on peut donner des conseils. Évidemment, il faut un peu d'investissement parce que ça peut coûter cher, organiser des tournées, prendre des billets, etc. Et là aussi, le Centre National de la Musique est aux côtés des artistes et de celles et ceux qui travaillent avec eux pour se développer. C'est un enjeu national. Et donc, il y a un ensemble d'outils pour gagner des parts de marché ou en tout cas les conserver.
Et sur l'année 2023, quel est l'artiste ou la chanson ou l'album qui aura été le plus exporté ?
Alors on est encore en train d'y travailler, mais c'est bien clair qu'on retrouvera les albums qui peuvent avoir quelques années parce que ça continue à se développer, mais on retrouvera Indila, bien sûr, on retrouvera Stromae et puis Aya Nakamura. Pour les artistes qui chantent en français, c'est autour de cela que le palmarès que nous dévoilerons dans un mois tout précisément sera construit.
Un grand merci à Jean-Philippe Thiellet du CNM pour tous ces éclaircissements. Le CNM qui va donc publier son rapport annuel le 29 avril. On aura l'occasion d'en reparler dans Côté Club. Je signale une exposition en lien avec la francophonie. C'est une chanson qui nous ressemble. Ce sera la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts en mai prochain. Alors Vincent Delerbe et Mesparo, est-ce que vous connaissez, vous savez sur quel territoire vos chansons s'exportent le mieux? Vincent?
Je crois que tu peux voir sur un peu sur avant sur Instagram, tu vois non ce que les gens aiment bien. Non, moi je suis quiche là-dessus. Hein. Par exemple, je suis sur Apple Music parce que c'est la seule plateforme qui donne pas les chiffres.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Belle stratégie.
Mais non, mais c'est pas sinon tu deviens fou quoi. En fait, tu dis ah bah non là en ce moment il y a des gens qui t'écoutent là et là. Enfin, moi je trouve ça assez sclérosant en fait.
Mais votre label doit vous faire des retours quand même là-dessus.
Zéro.
Bobo.
Ah bah.
J'y crois pas.
Ah bah je jurais cracher.
Zéro retour.
Zéro, mais vraiment. Quand je dis zéro, c'est zéro, zéro. De même, Corps Saison est une chanson hyper connue. Il y a zéro.
Et des souvenirs jusqu'au de tournée quand même à l'étranger?
Moi, ça n'a vraiment aucun intérêt ce que je fais si on perd quelques mots. Des fois, j'ai joué par exemple en Italie, une fois dans une ville, on m'a dit non, les gens comprennent bien le français, mais là, tout le monde est passé complètement à travers. Donc, c'est vraiment Québec, Belgique, Suisse. Et puis, voilà. Heureusement qu'il y a des gens comme moi parce que l'empreinte carbone, du coup. Ouais.
Et réduite. Et de votre
merci
côté, Mesparo, de votre côté, vous savez un peu si vos chansons s'exportent sur d'autres territoires, lesquels? Est-ce que vous êtes allé tourner à l'étranger?
J'ai déjà fait des dates à l'étranger, mais c'était essentiellement avec les bureaux export, l'Alliance française. Quelques dates, en Allemagne, mais après pareil, c'est Belgique, Suisse, Canada. Pour l'instant, j'ai pas eu trop d'autres occasions. Ouais.
Vous n'avez jamais cherché à prendre conseil pour le développement à l'international, justement, auprès du CNM? Vous saviez que ça existait?
Non.
Et bien alors là, ce soir, direction le CNM avec Vincent Delerme.
Côté.
Voici de la musique douce.
Club. Club.
Côté club. Sur France Inter.
Un peu de musique douce.
Stéphane Brisé, Vincent Delerme et Mesparo sont les invités côté club ce soir. Mesparo qui signe son quatrième album, L'essence vagabonde. On va écouter La Vague. Peut-être un mot pour présenter ce titre.
Oui, c'est une métaphore avec la vague émotionnelle. Donc se laisser traverser par ses émotions. J'ai fait cette métaphore avec une vague de la mer. Donc,
quelle mer?
La mer, l'océan. Atlantique. Mire. Laisse le courant couler, laisse-toi traverser par la vague quand elle monte. Thank you.
sous sa dentelle de couche, belle pour finir sa course, puis s'efface.
Jusqu'au bout du souffle. Le lyrisme assumé de La Vague, c'est un extrait de L'Essence Vagabonde, quatrième album pour vous, Mesparo. Le premier, c'était en 2013. Keep This Moment Alive, c'était votre période anglaise. Puis il y a eu Jungle Contemporaine, là c'était l'album en français. Puis ensuite ça s'est mixé, Monde Sensible, troisième album. Aujourd'hui, L'Essence Vagabonde. Ce titre raconte quoi, L'Essence Vagabonde ?
Alors déjà... pendant toute la composition de cet album, j'étais un peu en quête personnelle de qui suis-je. Enfin, je pense que c'est la quête d'une vie un peu, mais là, c'était assez intense pour moi. Et...
ça a été pendant le confinement? Parce que généralement, c'est à ce moment-là que tout se déclenche.
Non, j'ai commencé avec Monde Sensible, c'est pendant le confinement, et j'ai commencé cette quête, en fait, mais qui ne s'est pas arrêtée. Et donc sur cet album-là, il y avait vraiment cette, j'ai eu l'impression d'être cherché mon essence quelque part. Et donc il y a ce titre qui est venu avec un, c'est le titre d'un
titre.
Des morceaux, quoi,
ouais.
Voilà. Et l'essence vagabonde, c'est l'essence des rêveurs quelque part. C'est quelqu'un qui voilà qui se laisse. Porté par ses rêves, ses divagations, ses intuitions aussi. Il y a beaucoup d'images aussi.
Et beaucoup de métaphores dans mon écriture.
Beaucoup de métaphores dans mon écriture. Donc, j'aime bien aussi que chacun puisse se l'approprier. Moi.
Quatrième album avec au centre votre voix, on l'a entendu dans ce titre. Et je lisais que cette fois, vous aviez osé utiliser votre voix comme matière de base. Mais ce n'était pas le cas avant. Moi, j'ai écouté le précédent, c'était déjà le cas.
Oui, c'était déjà avec... enfin, la voix a toujours été le centre de mon travail, hein,
bien sûr,
c'est sûr.
Mais même comme ouais. matière de base.
Oui, parce que... alors en fait, c'est donc Simon Carbonel avec qui j'ai composé l'album et avec qui je travaille aussi en live, qui donc lui travaille avec l'électronique, avec des sampleurs, des claviers analogiques, etc. Et en fait, c'est lui cette fois-ci qui a pris ma voix et qui l'a utilisée vraiment comme une matière, comme un synthétiseur en fait.
Ah,
et
d'accord, c'est
une première.
D'accord.
Parce qu'avant, moi, j'ai toujours travaillé avec des boucles, donc j'enregistre ma voix, je la boucle, mais c'est très organique. Et là, c'est devenu plus. Enfin, c'est un mélange d'organique, parce que c'est vraiment ma voix. Et à chaque fois, il prend des bouts différents, en fait. Donc, et c'est lui qui part dans ces trucs, et après, il me fait écouter, je compose quelque chose, il retravaille dessus, et on part dans d'autres univers, et c'est vraiment une rencontre de deux univers, pour le coup.
Voilà, véritablement, le titre prend toute sa responsabilité, donc
oui,
l'essence vagabonde.
Ça se déplace et ça se transforme, hein, ça évolue.
En parlant de voix, je vous ai demandé votre titre déclencheur, et c'est cette voix-là.
Au rivage lointain, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins, mon Dieu. Voyage comme vous fûtes sage de nous donner ces images, car les voyages, c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait, que c'est beau les voyages.
On aura tous reconnu la voix de Barbara. Pour autant, ce n'est pas la chanson la plus connue, à moins que vous la connaissiez tous, Vincent Delerme et Stéphane Brisé.
C'est une chanson préférée de François Morel de Barbara. C'est lui qui m'en avait parlé très tôt de cette chanson. Elle était dans un de ses spectacles.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson, pour avoir choisi comme titre déclencheur Les Voyages de Barbara?
Ouais,
Mesparo.
C'est une chanson qui m'a beaucoup accompagnée avant mon premier album, en fait, quand je suis partie vivre en Angleterre. Je crois que c'était la musique de mon répondeur à un moment. Mais c'est surtout l'artiste, en fait. Il fallait choisir un titre, donc j'ai choisi ce titre-là, parce que c'est l'un de ceux qui me parle le plus par rapport à ma musique. Mais voilà, c'est vraiment la première artiste qui m'a le plus inspirée, vraiment, en tant que quand j'étais petite. Parce que peut-être, c'est ce que je me dis aujourd'hui, hein, que c'était une artiste femme, autrice, compositrice... libre d'exprimer ce qu'elle voulait, très dans l'émotionnel aussi, dans quelque chose de très intime, donc ce qui me parle beaucoup.
Alors voilà. Même que plus jeune, vous étiez quand même rock, vous faisiez partie de groupes de rock.
Oui, pop rock, noisy pop.
Bah oui, ouais. Pas grand-chose à voir avec Barbara au départ. Non,
j'étais élevée avec Brassens, Barbara, aussi les Beatles, les Doors, etc. Mais Higelin, j'étais vraiment élevée avec la musique française. Puis j'ai toujours aimé écrire, donc au départ, j'écrivais plutôt en français.
Mais vous êtes pourtant allée à Londres, vous le mentionnez un instant, vous avez fait le voyage à Londres. Qu'est-ce que vous êtes allée chercher à Londres que vous ne trouviez pas en France à l'époque ?
Alors à l'époque, ce que je cherchais, ce que j'avais fait les Beaux-Arts, j'étais vraiment dans la création, j'avais besoin de créer. Et je cherchais, je me disais, mais il se passe rien ici. Enfin, moi, j'étais à Tours, hein, j'étais pas non plus centre d'un endroit très incroyable au niveau culturel en France. Mais je me disais, moi, je veux créer un mouvement, puis on va changer la vie, on va changer les choses. Donc, je me suis dit, je vais aller à Londres et je vais rencontrer des artistes que je ne trouvais pas aux Beaux-Arts en me disant, voilà, on va créer des choses ensemble. Donc, chercher une énergie de créativité plus que, voilà, autre chose.
Et vous y avez trouvé votre place à Londres sur le plan musical et même sur le plan personnel?
Ça a été assez difficile parce que, ben, il a fallu que je parle anglais au départ. Que j'étais très timide, donc rencontrer les gens, c'était pas facile pour moi. Mais par contre, ce qui a été génial, après coup, c'est que je me suis enfermée pendant 6 mois dans ma chambre avec une pédale de boucle et un ampli, parce que j'avais que ça. C'est là que j'ai créé mes premiers morceaux de mon premier album, avec que de la voix, parce que j'avais que ça. Et c'est aussi grâce à des rencontres que j'ai fait d'anglais qui m'ont incité à aller jouer ma musique, parce que là-bas, tout le monde fait ce qu'il veut et c'est vraiment pas bridé. Et c'est ce qui m'a permis d'oser. Et aussi parce que j'étais loin sûrement de mon pays, ailleurs, c'était plus facile de me lancer en fait. J'avais moins peur du regard des autres sûrement.
Quand vous avez fait des Beaux-Arts, quel était le statut de votre voix et de la musique ?
J'ai fait les Beaux-Arts en me disant je vais faire du textile, je sortais d'une école de textile ou du dessin. Et puis finalement, j'ai utilisé la pédale de boucle pour la première fois aux Beaux-Arts. Je faisais des vidéos, j'utilisais déjà des boucles de vidéos et de voix et j'ai fait une reprise de Britney Spears, entre autres, avec plein de voix qui partaient dans tous les sens. C'était une parodie. Et puis, j'ai fini mon diplôme par une chorale fictive avec plein de visages animés qui faisaient des grimaces dans tous les sens et que j'animais avec ma pédale de boucle, à qui je donnais des voix, en fait, comme ça.
C'est quand même très cohérent avec ce que vous faites encore aujourd'hui. Parce que les titres racontent beaucoup, hein, dans les albums même précédents, parce que moi je connais quand même le travail depuis pas mal de temps, et encore aujourd'hui, que vous êtes pluriel. Ça correspond au traitement de la voix, donc mise en boucle dans les albums précédents, avec pour finir ici un hymne à la sororité, femme phare.
Apprends à t'aimer, à mettre tes besoins en premier, à mettre. Tu ne l'as jamais fait, essaie enfin de recevoir. Rappelle-toi que tu n'es pas seul, des âmes aux quatre coins du monde, chez elles, avec toi chaque seconde.
La sororité, c'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous en avez vraiment fait l'expérience, Mesparo ?
Oui, par exemple, je pourrais donner un exemple de retraite entre femmes, avec des cercles de parole où on échange. Et ça, par exemple, c'est typiquement la sororité. Puis ne serait-ce que d'échanger entre femmes artistes aussi, c'est quelque chose que je trouve important parce que je me rends compte aujourd'hui à quel point ça peut être difficile. Enfin, on peut se brider en tant que femme dans différents domaines. En tout cas, moi, je parle du mien dans la musique, par exemple. C'est pas forcément que ça vient de l'extérieur. Ça peut aussi venir de soi, de notre histoire. Et je trouve que la parole permet vraiment de soutenir parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de comparaisons et finalement quand on échange entre femmes et qu'on se dit ah, mais finalement elle aussi elle vit ça, tout d'un coup il y a quelque chose qui tombe et quelque chose qui s'ouvre en nous, on s'autorise, on se dit mais je peux le faire aussi.
Et par exemple sur le plan musical ou sur le plan du travail dans la musique, qu'est-ce que vous êtes autorisé aujourd'hui que vous n'auriez pas pu penser faire auparavant, Mesparo ?
Par exemple, danser sur scène. Voilà, parce que dans le nouveau live, je me suis libérée un peu plus de mes machines. Donc, j'ai autorisé Simon à se charger de la partie instrumentale. Et puis moi, j'ai plus d'espace pour interpréter vraiment, être pleinement là avec le public, et puis dans mon corps aussi, et accueillir ça. Et pour moi, il y a d'autres artistes femmes pour qui c'est pas un problème, mais pour moi, ça a été une étape de libération. Oui.
Vous êtes Britney Spears ?
Pas tout à fait, non. C'est plus sauvage.
Bien compris. On a ouvert avec la bécane de Yamé, on se quitte avec le scout d'Emma Peters. La programmation est de roue ce soir sur France Inter.
Ce soir sur le scout, j'ai abîmé ton cœur. On a pris la route, dans Paris y a pas d'heure. Et cette fois y a pas de doute, je vois plus les couleurs. C'était encore un shoot, de trop d'erreurs. Et je conduis bourré, non faut pas le faire. Mais j'ai bien essayé, tu me tiens par derrière. Et je sens ton odeur de parfum et de vodka. Je sais que c'est la peur qui te retient à moi. Oui, j'ai tout caché encore une fois. Dans mon téléphone, t'as fouillé. N'en fallait pas. Et j'ai frappé les murs, j'ai cassé la porte. Je te balance des injures quand la colère m'emporte. Et maintenant, j'ai que mes yeux qui pleurent pour deux quand je m'en veux.
Quand je...
Mon WhatsApp sur écoute, j'ai grillé toutes mes chances. T'en as plus rien à foutre, ça c'est ce que tu me balances. Balance-moi tes plus belles insultes, j'ai pas peur du hardcore. Tu peux me traiter de pute, moi je peux encaisser encore. Bébé, j'accélère. Paris est flou, pourquoi je fais tout pour te perdre? Pourquoi je sabote tout et j'ai le cœur qui se serre? Si tu veux plus rien du tout, plus rien c'est déjà beaucoup.
Déjà beaucoup.
Oui, j'ai tout gâché encore une fois. Dans mon téléphone, t'as fouillé, n'en fallait pas. Et j'ai frappé les murs. J'ai cassé la porte, je te balance des injures quand la colère m'emporte. Et maintenant j'ai que mes yeux qui pleurent pour deux quand je m'en veux.
Quand je...
Pleure pour deux quand je m'en veux.
On la comprend, pleurer parce que côté club. C'est fini pour ce soir, c'est le moment des adieux. Merci Stéphane Brisé, merci Vincent Delerme, merci à vous deux.
Merci.
Le
merci
film beaucoup. C'est Hors Saison, il est sorti aujourd'hui avec sa BO augmentée. Mesparo, merci à vous.
Merci.
L'album s'appelle L'essence vagabonde et vous serez en concert le 5 avril à Vendôme, le 10 à Paris à l'Archipel, le 20 à Pézenas au festival Bobby Lapointe, le 16 mai au Mans, le 12 juillet à Mont au festival Terre du Son. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain,
capable d'écouter et capable de voir. L'humain nouveau était.
L'humain nouveau, c'est lui, Gabriel Auguste. Il sera notre invité avec à ses côtés Philippe Cohen-Solal et Sarah McCoy en live. Et pour vous, Marion ?
Une surprise, Laurent, comme vous les aimez.
Ça veut dire qu'elle va bosser toute la nuit pour trouver sa chronique. Bien fait. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation. La technique ce soir, Guillaume Roux. Programmation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic. Et enfin, aux playlists, Valentine Chedebois. Côté club, on ferme. Bonne fin de soirée. Alors à demain.
Côté, c'était vraiment des chouettes moments, quoi.
Oui.
Il y avait même de la musique.
Bye.
Bye.